Et merci à tous d'être venus si nombreux. Bienvenue à la table ronde sur Gigi Arnaud. Comme disait Isaac Asimov, les introductions les plus courtes sont les meilleures. Donc, je ne vais pas passer beaucoup de temps à présenter Monsieur Arnaud, qui d'ailleurs probablement n'en a pas besoin dans une audience comme celle-ci. Gigi Arnaud, c'est un peu comme quand on s'approche d'un monument. Dans un premier temps, on lève la tête. On voit l'immensité de l'œuvre et on dit « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est impressionnant !» Et puis après, on rentre et on commence à visiter tous les étages et c'est encore plus merveilleux parce que c'est grand, c'est plein de pièces, dans des pièces décorées différemment, il y a de tout, on trouve de tout, c'est très beau. Et finalement, quand on arrive au sommet, on a une vue d'ensemble et c'est absolument imprenable. Donc c'est un peu l'œuvre de Gigi Arnaud qu'on a connu tous au Fleuve Noir, peut-être certains d'entre vous dans d'autres maisons d'édition, en particulier pour ma part dans le spécial Police dont j'étais friand, et ensuite bien sûr au Fleuve Noir, et j'ai acheté Les Croisés de Marat, le premier bouquin de Monsieur Arnaud publié au Fleuve Noir lors de sa sortie, et je suis resté fidèle et je l'ai suivi en bon lecteur jusqu'à la fin des chroniques glaciaires et de la deuxième époque de la Compagnie des Glaces. Donc on a environ une heure pour visiter cette tour Eiffel de la science-fiction. Je vais commencer. Monsieur Arnaud, pouvez-vous nous parler à partir de vos débuts quand vous avez commencé à écrire sous le nom de Saint-Gilles ?
Voilà. J'avais écrit... Bon, j'écris déjà depuis l'âge de 10 ans, mais la véritable aventure commence en 51. C'est par l'écriture d'un roman policier que j'envoie à plusieurs maisons d'édition, mais qui est refusé. Et comme je suis sursitaire étudiant de l'armée, je rends mon sursis et puis je m'en vais au service militaire. Et pendant ce temps, ma femme envoie le manuscrit au jury du prix du Quai d'Orfer, dont on avait trouvé l'adresse sur Mystère Magazine, une revue qui paraissait à l'époque. Bon, 3 mois se passent, tout ça, et puis un beau jour, je reçois une lettre d'Hachette. J'étais en permission. Et cette lettre me disait « Vous êtes susceptible de recevoir le prix du Quai des Orfèvres. Nous vous demandons de recevoir notre envoyé pour voir, avez-vous certains détails. » Bon, ils avaient mis « Vous êtes susceptible. » Et l'envoyé d'Hachette, je me souviens bien, c'était certain monsieur Madinier. Il arrive et il commence par me dire « Écoutez, vous ne faites pas de soucis, vous avez le prix. » Oh bon, ça va, très bien. Il me dit « Ce qu'on voulait savoir, c'est à cause de votre nom qui est le même que celui de l'auteur de... vous savez. » Et je dis « Oui, mais bon, alors on discute, tout ça. » Et puis il me dit vous êtes né où ? Ben je dis, je suis né à Saint-Gilles-du-Gard. Eh bien, on va vous appeler Saint-Gilles. Ça ne m'enchantait pas particulièrement, mais enfin bon, là, j'ai eu le prix. Bon, j'ai eu le prix. Et là, il y a quelque chose qui va me poursuivre pendant plusieurs années. C'est que ils avaient contacté Léo Mallet pour le prix au cas où il n'y aurait pas eu de manuscrit susceptible de recevoir le prix. Et Léo Mallet m'en a un peu voulu. Mais ça s'est vite atténué, parce qu'avec son humour, chaque fois qu'on se voyait, comme ça, dans une assemblée, il me désignait à tout le monde, il disait « Voyez ce petit con-là, il m'a fauché le prix du Quai des Enfants. » En passant, on était les meilleurs copains du monde parce que chaque fois qu'on se voyait, il m'amenait voir un lieu où, dans ses 20 ans, il avait connu des aventures soit amoureuses, soit au contraire un peu canailles. Mais c'était un homme excellent, dans le fond. Donc voilà, ça c'est mon premier roman. puis Hachette a accepté de m'en publier un second un an après. Puis ils m'ont dit, vous savez, nous, les romans français, en ce moment, on est axé sur le roman anglais. Ils avaient une série de romans anglais avec un inspecteur. Ça, bon. Il faudra vous trouver un autre éditeur, mais je persistais quand même à écrire des romans un peu classiques à cette époque-là. Et la série noire arrivait en tête des ventes. Et le roman américain aussi, quoi. Et pendant quelques années, je me suis retrouvé sans éditeur, avec des manuscrits renvoyés, enfin, bon, à la galère, quoi. Jusqu'à ce que je tombe sur un bouquin, je me dis, mais c'est pas possible, je vais prendre n'importe quel bouquin de populaire, un roman d'amour ou n'importe quoi. Et je me souviens, je suis tombé sur un roman de Maurice Liman. Un peu d'aventure, un peu léger, sexuel. Mais je me suis dit, bon, quand même, je peux faire autant. Je peux faire la même chose, quand même. Et j'ai écrit mon bouquin. Je l'ai envoyé là où lui-même paraissait. C'était la maison d'édition L'Arabesque. Et là, j'ai attendu. Et pas de réponse, rien du tout, sauf le 17 novembre 1956, une lettre de la maison L'Arabesque qui me dit « On avait perdu votre adresse. Vous aviez eu le tort de la mettre sur la lettre d'envoi au lieu de l'inscrire sur le manuscrit. » Il dit « Votre roman nous plaît. » Mais la collection ne marche pas, alors on l'arrête. Alors si vous pouvez faire un roman d'espionnage à partir de ce roman, on est susceptible de vous l'accepter. Voilà, ça a démarré comme ça avec L'Arabesque. Ils m'ont pris. Puis il a voulu savoir qui j'étais, tout ça, parce que mon nom quand même intriguait beaucoup les gens. Un auteur qui a écrit Le salaire de la peur, c'est quand même un personnage considérable, et j'avais le même nom. Donc, il m'a nouveau, le directeur de L'Arabesque, m'a demandé qui j'étais. J'ai dit, écoutez, moi j'ai écrit un roman qui a eu le prix du Quai des Orfèvres, mais depuis... il m'a dit, alors là, c'est pas tant, il m'a dit, je vais créer une maison, une collection policière, et voilà. Il a créé une collection policière, le roman qui avait été refusé un peu partout... Il a édité, il a bien marché, puis on est parti ensemble pour un bon moment. Moi j'avais une soif d'écrire, d'abord pour me sortir de ma condition de pion que j'occupais, pour finalement ne plus vivre au crochet de ma femme comme je le faisais depuis quelques années. Et puis... Bon, puis par goût quand même de l'écriture, et ça a marché. Il m'a demandé d'écrire des romans d'espionnage, des romans légers, des romans plus érotiques. Bon, j'ai fait. Et en 57, je me suis lancé complètement dans toutes les collections. J'ai écrit, je crois, entre 25 et 27 bouquins. Attention, certains étaient assez courts. Hein. C'était plutôt des longues nouvelles que, bon, il y avait des romans érotiques que je bâclais en trois jours, quoi. Oui, à raison de 45 pages, je me souviens, 45 pages par jour, je me levais tôt. Avant 10 heures du matin, j'avais écrit mes 15 pages. Avant midi et demi, j'avais écrit les 30 pages. Dans l'après-midi, je finissais les 45 pages. Et bon, ça m'a... tout marchait à peu près. Mon éditeur était content. Ça, bon. Ça a duré quand même quelques années. Puis un jour, il m'a dit, « Oh, tu te rends compte, le fleuve Noir, ils vendent en espionnage, ils vendent 100, 150 000 exemplaires, et moi je ne vends que 30 000 exemplaires, ce qui est déjà pas mal quand même. Et puis il me dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Il me dit, on va faire quelque chose qui ressemble un peu à Paul Kenny et puis à Copland. Bon. Il me dit, tu me trouves un pseudonyme qui évoque peut-être un peu le même nom de Kenny, et le héros aussi avec une sonorité qui pourrait rappeler Copland. Alors, j'ai créé le pseudonyme de Gilles Darcy, et puis le héros s'appelait Luc Ferrand. Et il me dit, on va faire un roman par mois. Or, je dis, pas moi. Moi, je veux bien faire 2-3 par an, mais pas plus. Il faut trouver des auteurs qui... Bon, il a trouvé des auteurs. Et puis, la collection a bien marché. Bien marché. Et c'est à cette époque-là que j'ai eu un contact pour le fleuve Noir. Il y avait chez l'Arabesque un lecteur de manuscrits et correcteur en même temps. Je ne donne pas son nom parce qu'il était en même temps directeur littéraire du fleuve Noir, mais il travaillait au Noir à l'Arabesque. Et parce que nous avions au fleuve Noir, il y avait un patron très strict, très, très dur. Et ce directeur littéraire me dit à nouveau, j'aime bien et bien rencontrer Arnaud parce qu'il a peut-être des qualités pour venir au fleuve Noir. Et alors nouveau, toujours généreux, me dit, tu nous payes à manger ce soir à tel endroit et je te ferai connaître ce bonhomme. Et puis, c'est ce qui s'est passé. Et puis, ce directeur littéraire me demande si je suis capable d'écrire un roman d'un million de signes. Il me dit, nous avons une collection de grands romans et nous manquons d'auteurs. Je dis, mais moi, bien sûr. Voilà, très prétentieux, tout prêt à n'importe quoi. Et voilà, j'ai écrit ce bouquin, ce roman, il a paru et je suis rentré au fleuve pour la destinée que peut-être vous connaissez à peu près, quoi.
Continuez, hein. C'est un roman feuilleton.
Alors, j'ai eu la chance de... Bon, j'ai écrit des romans, des gros romans, et puis j'ai commencé à écrire des policiers. Il y en avait un qui a été Virus, le premier. Il a eu la chance d'être adapté à la radio. Et le second, L'éternité pour nous, a été acheté par Benazeraf, grand spécialiste de l'érotisme au cinéma, pour faire un film. Il vient de mourir, d'ailleurs, Benazeraf. Et dans Libération, il commence l'article nécrologique par L'éternité pour nous, en référence à mon... Bon. Et le fait que j'ai vendu tout de suite un bouquin au cinéma avec mes premiers... Ça m'a ouvert complètement la porte du fleuve. À partir de ce moment-là, j'ai quand même eu ce que je voulais. J'ai pu écrire. Et puis, vous savez, c'était une maison qui vendait beaucoup. Elle vendait peut-être moins que ce qu'on croit. Parce que nous avions, le patron s'appelait De Caro, et il nous payait sur le tirage, mais pas sur les ventes. Il disait qu'il tirait à 100, par exemple les espionnages, il disait qu'il tirait à 120 000, mais peut-être qu'il n'en vendait que 70 000, 80 000, mais pour la presse, il en vendait 120 000. Et c'était une sorte de publicité abusive, quoi. Mais ils nous payaient sur, la, sur les 120 000. Ou bien sur, en polar, c'était 40 000. Bon, mon but, c'était quand même de pouvoir écrire des espionnages, étant donné le tirage qu'ils connaissaient. Et tout était occupé par les auteurs. Vieux auteurs du début. Là, je parle, Fleuve Noir a dû commencer dans les années 50, et il y avait quelques auteurs qui tout de suite sont devenus les rois du roman d'espionnage, quoi. Il n'y avait pas moyen d'accéder tout de suite à la collection. Il a fallu que je profite de, je ne sais pas quoi, s'il y avait eu un malade ou une défection, je ne sais pas. J'ai eu mon premier espionnage, puis voilà. Puis ça a continué. Mais au début, j'ai joué le jeu. Je le dis tout de suite, je suis un homme de gauche. J'ai quand même joué le jeu qui était à la mode au Fleuve Noir, anticommunisme, anti-russe, anti-ci, anti-là, anti-gauche, enfin tout ce qui est... Bon. Et puis, un beau jour, j'ai osé faire un roman différent. C'est passé comme une lettre à la poste. Mais alors, vraiment, je ne m'attendais pas. Il n'y a pas eu de résistance, il n'y a pas de... Alors j'ai continué dans cette voie, c'est-à-dire...
Une précision, quand vous avez commencé dans l'espionnage, est-ce que c'était tout de suite avec le personnage du commandeur, ou est-ce que vous l'avez introduit après, en fait?
Non, il y a eu d'abord le personnage du commandeur, oui.
Donc quand vous avez changé d'orientation politique...
C'est-à-dire quand j'ai commencé, le personnage du commandeur appartenait au service secret de la marine américaine.
Oui.
Bon, je vais vous dire quelque chose. J'ai créé à l'image de ce qui se faisait dans le... Et je le trouvais emmerdant au possible. Bon. Je me suis dit, il va falloir trouver quelque chose parce que je ne peux pas vivre avec un héros de ce genre. Et un beau jour, j'ai trouvé une vieille dame, la maman, qui... avait été la victime. Toute sa famille avait été exterminée par la mafia américaine et elle était partie en guerre contre à peu près tout le monde. Et à ce moment-là, le commandeur a changé de service. Au moment où Pinochet arrivait au pouvoir, il a eu comme un sursaut d'honnêteté. Il s'est rendu compte que le boulot qu'il faisait au Chili, c'était... pour mettre Pinochet en place, et là, il a changé complètement. Il a rejoint un sénateur, je ne sais pas si ça existe, mais enfin, il y avait un sénateur qui s'occupait des droits de l'homme, et il a rejoint ce sénateur, et à partir de là, ses missions ont complètement changé, avec l'aide de cette dame qui était très dangereuse. Elle avait un sac à main énorme, et dedans, elle n'avait pas d'armes interdite, mais elle avait un machin qui jetait du poivre, elle avait un vaporisateur plein d'acide, enfin elle avait des tas de trucs à elle pour se défendre et pour attaquer aussi, parce qu'elle attaquait. Donc j'étais heureux parce que là j'avais mon personnage quand même. Même si parfois la maman pouvait apparaître comme un second couteau, malgré tout, elle était importante. Et j'étais heureux de travailler sur ce personnage. Et le commandeur devenait un peu plus humain quand même. Il était moins rigide. Il avait quelques aventures amoureuses. Et ça commençait à devenir un peu plus intéressant pour moi. Voilà. Bon, des espionnages, j'en ai écrit une 90, je crois, et polars aussi.
Dans la collection spéciale police, il n'y avait pas de héros récurrents.
Non, j'écris pas de romans vraiment policiers, en ce sens que moi, ce qui m'intéresse, c'est de partir de gens très simples. Tenez, par exemple, un des derniers bouquins qui a été réédité par Plon, c'est Noël au chaud. Dans Noël au chaud, c'est une dame qui vit toute seule, qui n'a pas beaucoup de moyens et qui est harcelé par les voisins parce qu'il y a un projet de lotissement et puis sa propriété empêche la création, elle ne veut pas vendre, et tout le monde la déteste, etc. Et elle, qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit sa copine préférée qui vit dans sa famille avec son fils, sa belle-fille, sa petite-fille. Elle est gâtée, chaque matin son fils lui porte le café au lit et elle est bien chauffée. Et mon héroïne à moi, elle vit misérablement et elle souhaiterait que quelqu'un s'installe chez elle, lui apporte le café le matin, la bichonne, etc. Donc elle finit par devenir meurtrière pour arriver à ce but. Voilà. Voilà le genre d'histoire que j'aimais écrire, quoi. Bon, par exemple, j'écris d'autres bouquins aussi. J'écris Le Coucou, c'est mon préféré. Le Coucou, c'est un homme. J'ai écrit ce bouquin dans une époque où c'était rare qu'il y ait des hommes de ménage. Il y avait eu un article dans Le Monde qui m'avait intéressé. Pour moi, j'ai vu là un personnage qui, le matin à 4 heures, pénétrait dans des bureaux de société pour mettre de l'ordre, pour tout balayer, aspirer, vider, surtout vider les corbeilles à papier. Et comme c'était un bonhomme un peu curieux, dans les corbeilles à papier, il retrouvait des choses qui pouvaient le guider, qui pouvaient lui apprendre un peu ce qui se passait dans les bureaux dans la journée. Par exemple, bon, il trouvait un mouchoir taché de rouge à lèvres, ou bien un préservatif, ou bien un reste de déjeuner, enfin, des tas. Et ça, il reconstituait la vie des gens. Mais en même temps, il avait l'impression, dans certains bureaux, qu'il y avait un mystère. Bon, il a trouvé ce mystère, et puis ça fait l'histoire, c'est une histoire criminelle, quoi, voilà. Mais je n'ai jamais aimé avoir un policier, un inspecteur ou autre. Sauf, d'ailleurs, il y en a eu un dans Ami Flic qui ruine une famille.
Oui. Et comment êtes-vous passé alors à Anticipation, les Croisés de Marat ?
Bon, l'Anticipation, c'est...
Parce que vous aviez déjà espionnage ?
Non, vous savez que j'en ai d'abord... J'écrivais dans l'espionnage, surtout des romans policiers, c'est ce qui me plaisait le plus. Et puis le directeur littéraire m'avait demandé de lui écrire des angoisses parce qu'il manquait d'auteurs. Et j'ai écrit 3 angoisses. Et bon, ça m'a plu d'ailleurs. Et puis un jour, c'est idiot, hein. Mais un jour, je me suis dit, mais j'écris des polars, j'écris des espionnages, j'écris de l'angoisse. Pourquoi je n'écrirais pas de la science-fiction ? Ça, c'était un peu de prétention quand même, hein, un peu comme ça, de histoire de... bon, j'étais le seul dans le groupe des certains écrivains là, à ne pas avoir écrit de la science-fiction. Bon, je me suis dit, mais on va voir. J'écris La Grande Séparation, qui d'abord a compris 3 volumes, puis à la réédition, j'ai dû en écrire un 4e pour que le volume soit complet. Et bon, j'ai écrit ça, mais je n'ai pas eu envie de continuer. Et c'est vers les années 70, vers la fin de 70, que j'avais toujours eu une obsession avec les trains. J'ai essayé d'analyser tout ça. C'est vrai que mon premier livre que j'ai lu de science, enfin d'anticipation ou de science-fiction, c'était La Maison à Vapeur de Jules Verne. La Maison à Vapeur, c'est un âne qui est un éléphant qui se déplace à la vapeur comme un train, quoi. Enfin, et ça m'avait plu énormément. Puis mes grands-parents maternels avait un petit hôtel avec un perron. Et le long de ce perron, il y avait une voie ferrée des tramways à vapeur de l'Aude. C'est un petit train tiré par une locomotive de 15 tonnes, ce qui est très petit. Une locomotive, je la revois, pleine de vapeur, de fumée, et des tuyaux en cuivre, tout ça. Ça c'était une image qui, depuis mes 6 ans, 7 ans, m'obsédait. Et j'avais une passion pour les trains. À plusieurs reprises, j'ai écrit des polars qui comportaient des trains, mais j'avais toujours cette hantise d'écrire quelque chose sur les trains. Et puis un jour, je me suis dit, mais c'était étrange, mais une compagnie ferroviaire prenait le pouvoir complètement. Si même plusieurs compagnies s'entendaient pour prendre le... Puisque elles forment un réseau sur une terre, elles pourraient enserrer cette terre dans un pouvoir total. Oui, mais ça sera de l'anticipation. C'est pas possible que je le traduise dans le polar ou dans l'espionnage. Ou autre. Ça me posait un peu problème d'imagination, malgré tout. Et bon, petit à petit, je suis arrivé quand même à me convaincre de l'écrire. Mais je me suis dit, je vais prendre une terre saccagée, une terre qui est presque vidée de ses habitants, à part quelques groupes humains. Mais je choisis un désert. Je vais choisir un désert avec une ambiance très brûlante. Bon, j'en parle à ma femme. Et ma femme me dit, tu ne vas pas faire ça. Ce que tu aimes, tu ne le décris pas si bien que ça. Par contre, quand tu parles du froid, de la neige, de la glace, il me dit, là, alors, tu es brillant. Surtout, ça ne lui plaisait pas trop, parce qu'elle était jurassienne. Et qu'elle était habituelle. D'abord, on habite dans le Var, au bord de la mer Méditerranée, et tous les hivers, elle attendait qu'il tombe au moins un flocon. Les flocons, ils ne venaient jamais. Elle me dit, non, il faut que tu prennes une autre direction avec le froid, la glace, etc. Bon, et voilà. J'avais mon décor, j'avais mon personnage. Mais je sentais il manquait quelque chose. Bon, quand j'ai commencé l'écriture, il est venu un moment où... pour parler des gens réfugiés dans les villes sous coupole ou bien dans les trains, j'utilisais le mot d'homme du chaud. Et puis là, je me suis dit, mais homme du chaud, c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'il y a en dehors? À part quelques baleines qui se traînent sur la banquise ou bien des manchots, des animaux. Et c'est là que, d'un seul coup, j'ai vu un roux. Mais je me rappelle parfaitement, j'ai vu ce roux dans mon image. Je l'ai vu avec sa toison rousse. Et c'est parti. Et là, c'est là que tout a commencé.
Excusez-moi. Une question.
Quand on lit la Compagnie des Glaces, on s'aperçoit qu'au 99e livre, c'est tout en cohérence par rapport aux trois premiers que vous aviez décidé de faire. C'est tout en cohérence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de...
Le monsieur dit que quand on lit La Compagnie des Glaces, on s'aperçoit que même à la fin, 80 ou 100 volumes plus tard, c'est complètement cohérent avec ce que vous aviez écrit au tout début. Oui. Comment avez-vous réussi à maintenir autant de cohérence dans le même univers aussi longtemps?
C'était un sujet qui m'emballait vraiment. J'étais très enthousiaste. Je, Pour moi, c'est...
Vous gardiez des fiches, vous faisiez des notes sur les personnages.
J'écrivais un bouquin, je prenais des notes pour pouvoir écrire la suite. Mais la suite, je ne savais pas. Ça dépendait en partie des notes, mais aussi de...
Si vous étiez au tome 36 et que vous vouliez rechercher Frère Pierre...
Oui.
De l'Église. Est-ce
parfois,
que vous
je recherchais à travers toutes ces notes. Alors, j'avais un système à moi. Je prenais une feuille, je la pliais en deux, et puis je mettais tous les chapitres du tome que j'étais en train d'écrire avec des abréviations pour indiquer les points principaux ou bien les petites astuces que je pouvais glisser qui pouvaient revenir plus tard. Enfin, ça, c'est une organisation. Hein, mais il y a très peu d'archives, la compagnie, il y a très peu, oui. La Bibliothèque nationale m'a demandé les manuscrits, tout ça, mais moi, les manuscrits, c'est tout sur ordinateur. Les manuscrits, ils sont corrigés, ils sortent corrigés, tout ça. Je ne voyais pas l'intérêt de donner des manuscrits, alors j'ai donné tous ces renseignements, tout ça, voilà. Ça. Et puis j'ai donné aussi l'encyclopédie que M. Noé Gaillard avait établie, qui était très importante. C'était important, cette encyclopédie, parce que il y avait les thèmes par c'était très intéressant. Donc, si j'ai pu mener à bonne fin la compagnie, c'est que j'étais très enthousiaste. Je me sentais aussi à l'aise qu'avec les polars. Beaucoup plus à l'aise qu'avec les espionnages qui parfois m'agaçaient parce qu'ils nécessitaient trop de documentation. J'avais entrepris d'attaquer assez fermement certaines choses et il me fallait une énorme documentation. D'abord, lecture de tous les journaux, aussi bien de droite que de gauche, et puis j'avais des correspondants. Mais les correspondants, je les ai pas sollicités. C'est eux qui m'envoyaient. Dès que j'ai commencé à avoir une science, des romans pour espionnage agressif, j'ai reçu des renseignements. Même, je me souviens d'avoir reçu des renseignements du Chili et un aussi d'Argentine. C'était l'Argentine. Et j'ai su plus tard que c'était un chargé d'ambassade qui savait quelque chose et qui avait envie que ça se sache. Voilà. C'était à propos du canal de Vrain, en bas de pas loin du Cap Horn, tout ça. Oui. Ça, c'était bien avant l'attaque anglaise et la guerre, mais ça se préparait là. Donc j'avais mon fils qui habitait l'Allemagne, qui parlait bien l'allemand, et j'avais eu des tas de documents sur l'Allemagne actuelle, l'Allemagne des brigades rouges, la brigade avec les avocats, enfin tout ça, il y avait un avocat qui s'était réfugié en France, puis mon fils le connaissait. Il était un peu gauchiste, il avait eu accès à des tas. Ma fille parlait très bien l'anglais, pouvait me traduire des tas de documents d'anglais. Voilà. Mais c'était écrasant comme travail. Hein. Il fallait d'abord relire tout soigneusement pour savoir comment utiliser les renseignements, avec quand même une certaine prudence, malgré tout. On ne pouvait pas être... j'avais pas envie d'être mis en accusation, quand même. Bon, je sais que par suite, j'ai appris que j'étais sous écoute, mais en fait, ça fait rien. Parce qu'un ami qui était correspondant du Monde m'a dit, tu viendras chez moi manger avec ta femme, tu viendras dîner, déjeuner, je te présenterai quelqu'un. Et ce quelqu'un appartenait aux renseignements généraux. Et ce quelqu'un-là m'a dit, vous savez, vous êtes sous surveillance. Alors, j'avais dû froisser quelque chose. Mais ça, bon, c'est anecdotique. Hein.
Ah, une question là-bas, monsieur.
Je voudrais revenir un petit peu à la Compagnie des Glaces, quand même. Personnellement, je trouve que vous êtes, avec monsieur Brousselot, un des auteurs qui a l'imagination la plus faramineuse. Pas d'autre mot, c'est absolument extraordinaire. La Compagnie, les 5, les 64 premiers volumes, fourmillent d'idées, de toutes sortes, scientifiques, des choses inimaginables. Enfin, qui aurait pu penser faire voler des baleines, qui aurait pu penser tout ce qui peut se passer. Alors, vous disiez que vous avez vu le roux vous apparaître comme ça. J'avais l'impression quand même que dans la séparation, vous aviez déjà créé des personnages un peu poilus.
Monsieur demande dans les chroniques de la Grande Séparation, les Croisés de Marat, etc., que vous aviez des personnages qui ressemblaient déjà aux roux.
Ah bon? J'ai pas fait attention.
Enfin, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, je dis tiens, on dirait des
prénoms. Oh, c'est possible. Après
c'était,
tout, hein.
C'était bien dans les trois premiers,
oui,
pas
oui,
dans le quatrième.
Ben,
le quatrième était écrit post-Compagnie des Glaces.
Oui.
Donc,
alors, voilà, c'est possible. Oui.
Alors que si c'était dans Lazare III ou les monarques de.
Mais j'ai anticipé.
Mais,
oui, je ne m'en suis pas rendu compte, mais je vous crois sur parole. Hein. Oui, oui.
Comme ça, Monsieur demande si.
Monsieur demande si c'est de l'imagination qui vous vient par flash ou par des lectures ou des autres choses que vous auriez pu voir ou lire.
Oh, évidemment, quand j'ai parlé de mon polar, là, le coucou, c'est parce que j'ai lu un petit article dans Le Monde sur un homme de ménage.
Mais pour la science-fiction, pour la science-fiction.
Non.
Non, ça vient de vous.
Ça venait comme ça, non.
Il y a 4-5
débats. Oh non, on ne trouve pas grand-chose dans.
Quand non, on... non. Bon, donc alors. Ça vous vient de vous. Monsieur est admiratif, il dit qu'il y a beaucoup d'idées dans chaque livre.
Comment?
Vous êtes comme Monsieur Brousselot, hein.
Voilà.
Oui.
Brousselot, dans le genre.
Non, mais écoutez, je savais, c'est prétentieux ce que je veux dire, mais moi, quand j'écris. Que ce soit un polar ou une Compagnie des Glaces, je suis persuadé que le roman est là et qu'il va sortir, même avec très peu de moyens au départ. Et ça, c'est, chaque fois, ça marche. C'est peut-être, je ne sais pas, mais j'ai cette certitude que le roman se fera. C'est rare que j'ai renoncé à un roman.
J'appelle ça la marque du génie.
Voilà. Il appelle ça la marque du génie.
Oh, génie, oui. Enfin, ça marque aussi une sorte de plongeon dans ce que je fais.
De l'entêtement.
Oui. Moi, je me lève le matin de bonne heure, je vous l'ai dit, je me mets au travail et là, je plonge. La preuve, c'est que ma femme faisait l'expérience assez souvent. Elle se plantait devant mon bureau et je ne la voyais pas. Un jour, elle m'a dit, il y a un quart d'heure que je suis là pour te demander ce que je prends comme commission. Si tu veux manger de la viande ou du poisson. Je ne voyais rien. Bon, c'est ça, ça peut être incroyable, mais c'est comme ça.
Monsieur.
Comment vous est venu le nom de Lien Rag?
Écoutez, là, alors, j'ai fait une bêtise parce que le mot rag en américain, ça veut dire serpillière.
Oui.
Alors, les Américains s'en méfient, je suppose. Ben, je sais pas. Je peux pas dire. Et après, j'ai rajouté, j'ai dit que c'était un ragus, etc., que c'était une. Enfin, vous connaissez l'histoire, mais...
Chose audacieuse, dont vous avez au début, vers le tome 20, quelqu'un me corrigera, vous avez un gap de 10 ans. Vous avez sauté par-dessus 10 ans, après les éboueurs de la vie éternelle. Vous avez 10 ans qui tout d'un coup, dans la même série, c'est inhabituel en fiction. Même dans l'époque d'Alexandre Dumas, de Paul Féval, etc., même quand il y avait de longues sagas familiales qui s'étalaient sur de nombreuses années, rarement un auteur sautait...
C'est peut-être arrivé à un cycle quand même, non?
Non, d'un bouquin à l'autre, vous sautez 10 ans.
Je sais pas pourquoi. Je ne me souviens pas pourquoi. C'est ça.
Bah,
ça
parce qu'après, même... entre la première époque et la deuxième époque, là, par contre, il y a une délimitation bien marquée, il y a 15 ans,
alors là,
entre
oui.
les deux.
Oui, 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 oui.
Ce qui est intéressant, après les éboueurs de la vie éternelle, c'est qu'il n'y a pas de démarcation de cycle.
Bon, maintenant, par contre, vous aviez je veux mettre les choses au point entre la première et la seconde.
Oui.
C'est que la première, c'est moi qui l'ai décidé.
Oui.
Et la seconde, c'est l'éditeur.
Ah.
Ça change les choses, hein. Non, mais j'avais écrit la première série qui faisait 62 plus 1 que j'ai rajouté.
Pour l'édition intégrale,
quand ils ont été publiés en... Bon, là-dessus, j'avais exigé de sortir des spin-offs.
Des chroniques glaciaires.
Des compléments pour expliquer. Parce que les lecteurs m'écrivaient qu'à tel endroit, ils comprenaient... Ou qu'ils auraient aimé savoir... comment ça avait commencé, etc. Et là, j'ai un peu réglé ce problème. Ces spin-offs ont énormément bien marché. Moi, je croyais qu'ils allaient simplement servir d'accompagnement.
Ils sont excellents.
Ah, ils ont...
Ils sont excellents.
Oui. Et l'éditeur, il me dit, mais vous voyez, ça marche. Ah, il faut continuer, là, ça... Là. Bon, j'ai continué, mais je crois quand même que l'enthousiasme n'était pas aussi fort. Hein. Et puis, au 25e, franchement, j'ai jeté la plume.
Des questions, monsieur Gaillard.
Vous avez endossé deux fois un personnage qui n'était pas à vous. Comment ça se passait?
Voilà.
Je pensais à Luc Darcy d'un côté et le Poulpe de l'autre. Comment vous êtes passé?
Monsieur demande, quand vous avez écrit un personnage que vous n'avez pas créé comme le Poulpe.
Oui.
Comment vous percevez d'écrire un personnage qui n'est pas de votre invention? Vous avez écrit un poulpe.
Vous n'avez pas imprimé votre marque spécialement en endossant le collectif?
Oh, le poulpe, oui, ben vous adaptez. Hein, ben c'est pas... alors là, je n'ai pas du tout la même mentalité. J'écris ça de façon détachée. Je ne m'implique pas. Oui, c'est vrai. Oui, vous avez raison.
Le poulpe,
le monde écrivait des poulpes. Ils m'ont demandé, la maison d'édition m'a demandé si je ne voulais pas en faire un. Bien sûr, je l'ai fait. Mais avec un personnage imposé, non, c'est juste...
Que pensez-vous des différentes adaptations qui ont été faites de la Compagnie des Glaces en dessin animé ou en bande dessinée? Est-ce que vous étiez impliqué dans le processus?
Non.
Non.
Bon, pour la... Moi, la bande dessinée m'a déçu. Parce que... Je sais pas, il y a quelque chose qui... Les traits ne me plaisent pas. Ils sont très futuristes et j'aurais préféré qu'ils restent ces traits un peu récupérés, etc. Me semblait beaucoup plus poétique. La bande dessinée manque complètement de poésie. Peut-être qu'il n'y en a pas tellement dans mon récit, mais il y avait quand même ce goût pour les vieilles locaux, etc. Non. Et puis après, alors, le désastre, c'est l'adaptation télé. Quoi.
Le dessin animé.
Oui.
Oui.
La Compagnie des Glaces en télé, bon, pour les adolescents.
Oui.
À 8 heures du matin. Voilà. Oui, oui.
Les aficionados de la Compagnie des Glaces ont été tous catastrophés à l'apparition de la en BD de la locomotive de Kurtz.
Ah oui.
C'était des os. C'était qu'un ensemble d'os, alors que la locomotive, c'est des cuivres, c'est des voilà. Donc là, je suis en contact avec plein de personnes. Et
oui.
Tu as vu la locomotive?
Ah, c'est un plaisir de la décrire, cette loco. Oui, oui.
C'est un plaisir, mais c'était vraiment une catastrophe en BD. Hein.
Oui, oui. Ah oui, je me rappelle. Oui, oui.
Y a-t-il d'autres questions sur l'œuvre La Compagnie des Glaces? Non? Monsieur, ben oui, pourquoi pas.
Vous vient l'origine, dans votre esprit, de la série de 6 livres avec les frères Rambert?
Devient la série de 6 livres avec les frères Roquebert.
Ah, ça, c'est vrai. Oui, alors là, ça aussi, J'ai vraiment pris mon plaisir. C'est une série historique, une roman polar historique avec. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai lu beaucoup Balzac, tout ça. Il y a souvent des avoués chez Balzac. Hein. Et je me suis dit, tiens, les avoués, à cette époque-là, ils ont de gros pouvoirs, parce que c'est des avocats aussi en même temps. Ils savent beaucoup de choses sur les gens, sur tout le monde. Je me suis dit, tiens, si j'avais un avoué enquêteur sur certaines affaires qu'il découvre dans ses archives ou autres, alors c'est parti, l'idée est partie de là. Et puis je me suis dit, non, je vais créer deux avoués jumeaux. Et puis j'ai eu mes jumeaux. Je me suis dit, tiens, et où est la fille là-dedans? Il faut quand même. Je me suis dit, après tout, les sauteruisseaux n'étaient que des garçons à cette époque-là. Moi, j'ai dit, il peut bien avoir une fille un peu. Et j'ai fait ma petite. Sauteruisseau, qui est là, peut-être la meilleure dans le bouquin, quoi. C'est elle qui a toutes les audaces et tous les. Parce que c'est une ancienne ramoneuse. Elle faisait partie d'une équipe de Savoyards ramoneurs, comme il y en avait beaucoup à cette époque à Paris. C'était des gosses qui faisaient les cheminées, quoi. Et elle avait été née dans ce milieu, puis beau jour, elle a eu affaire à un avoué qui l'a retiré de la bande pour la garder dans son étude. Et elle est un personnage très important de cette série. J'écris 6 bouquins, je crois, hein, il y en a 6, hein, mais 6 bouquins historiques, oui. De polar historique, mais qui sont réédités là, oui, qui marchent bien quand même, oui.
Est-ce que M. Arnaud peut nous dire deux mots de livre que je considère moi comme le meilleur? C'est L'Étameur des morts.
L'Étameur des morts.
Ah, ça, c'est mon pays.
Oui.
Oui. C'est mon pays, les Corbières, c'est-à-dire, c'est des collines sauvages et souvent aride, dans l'Aude, le long des Pyrénées. Je suis là-bas et je connais parfaitement ce pays, je sais. Et puis vous savez, je suis né en 28, mes grands-parents avaient, je vous l'ai dit, un petit hôtel là, où on était souvent en vacances. Et le soir, l'hiver, les voisins venaient à l'hôtel. Parce que, je crois, le feu brûlait tout le temps. À l'hôtel, il fallait toujours du feu. Et on se réunissait autour de la famille. Alors, les histoires les plus horribles qui circulaient le soir, moi, quand j'allais au lit, j'avais... Et donc, je crois que c'est parti de là, quoi. Je me suis dit, il y a eu quelque chose, certainement, qui m'a frappé, quoi. Parce que, alors, j'ai créé un... Et puis, mon grand-père paternel, alors, celui qui vivait près de la mer, avait été étameur itinérant, dans les Corbières. Il avait même eu maille à partie avec des gitans qui avaient aussi la même fonction dans le pays. Et tout ça, on m'avait raconté que tout ça ça formait quand même un noyau de départ. Hein. Donc j'ai écrit Les Tameurs des morts. C'est une histoire un peu fantastique dans la mesure de ce que j'appelle le réalisme fantastique plutôt que le véritable, c'est-à-dire on glisse vers un peu le mais sans trop, quoi. Laisse un doute.
La mort noire se déroule dans la région, oui. Non, la mort noire se déroule dans
oui,
la région,
oui,
je
oui.
me souviens.
Parce que alors là, on m'a fait remarquer, c'est vrai, Elle se déroule pas loin d'un pays qui s'appelle Bugarak.
Bugarak, oui, oui, oui.
Et c'est dans là, à ce moment, il y a toujours eu des phénomènes de sorcellerie ou de là. Et à ce moment, il y a une réunion importante de tous ceux qui croient que le 12 décembre, on va disparaître. Alors, il paraît que c'est le centre, je ne sais pas comment ils appellent le centre de tout ce qui peut arriver, ça sera là.
Attends, monsieur, oui.
Oui, moi, je voudrais poser la même question, mais sur le roman de vous que je préfère, qui est un roman policier qui est En fantasme, qui a eu le prix Mystère de la critique.
En fantasme.
Ah, En fantasme, oui. C'est un roman que j'adore, oui. Prix Mystère de la critique, oui. Il a fait deux fois un film. Un premier qui a été fait par...
Sergio Gobi, non ?
Oui, qui était très mauvais. Oui. Et le second a été fait par un jeune réalisateur, je l'ai vu, parce qu'il m'a envoyé là. Eh bien, il est pas mal du tout quand même. Il est bien, il est mieux réussi. Mm-hmm. Mais bon, il est sorti dans quelques cinémas, mais il n'a pas eu un grand Sommeil succès. Blanc. Le dernier s'appelle Sommeil blanc. Oui. Oui.
Mais... Il est dispo en CD, en DVD.
En DVD, ouais. Oui. Il est disponible en DVD.
Voilà, alors faut chercher.
Peut-être, oui, je crois, puisque j'en ai reçu un, mais il doit être disponible, oui. Oui.
On a encore le temps pour une question, ou si quelqu'un a un commentaire à faire. Ce n'est pas les occasions qui manquent. Monsieur ? Pas dans le cas de l'œuvre de Monsieur Arnaud.
Non, je veux dire, dans la catégorie auteur de science-fiction, est-ce
oui.
qu'on peut recevoir des propositions par qui nous arrivent à
Monsieur se demandait si vous aviez reçu, de la même façon que vous receviez des renseignements d'ordre politique ou de politique internationale qui vous aidaient à construire les romans d'espionnage, si vous aviez reçu des renseignements d'ordre scientifique, de savants ou de techniciens qui auraient pu vous aider pour les romans de science-fiction.
C'était très politique, mais non.
Mais pas en science-fiction.
Non.
Bon, ben écoutez, on doit laisser la place dans 4 minutes à la présentation suivante. Donc, merci d'être venu. Merci, Monsieur Arnaud. Merci.